Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Merci de votre présence à nos côtés toutes les semaines en cette veille de vacances. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque dimanche, donc à 17h et chaque lundi à 16h30 en rediffusion. Vous pouvez aussi retrouver ces émissions en podcast sur Deezer et Spotify. Merci d'aider à la faire connaître pour le bien de Radio Courtoisie et parfois même pour le bien des auditeurs, car j'ai la chance d'accueillir des invités passionnants. Et c'est le cas aujourd'hui avec notre invitée régulière et fidèle. En effet, je reçois Patrizia Cataneo. Bonjour Patrizia.
Bonjour France.
Alors, vous avez abandonné une carrière de manager pour vous consacrer à l'évangélisation. Vous avez écrit de nombreux livres, pour certains desquels vous fûtes à nos côtés. En effet, vous nous avez fait connaître Padre Matteo et le Père Cipriano de Meo, et aussi votre compatriote Carlo Acutis. Alors, toutes ces émissions sont disponibles sur la page En toute bonne foi du site de Radio Courtoisie. Je rappelle que la dernière émission en date dont l'invité était Laurence Trochu est en accès gratuit jusqu'à ce dimanche soir. Et à partir de demain lundi, vous retrouverez celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de Radio Courtoisie. Alors, chère Patrizia, j'aimerais bien que vous reveniez un jour prochain pour nous parler de Fratel Cosimo que nous ne connaissons pas en France et que j'ai découvert sur votre site internet.
Ah, super, oui, bien volontiers, j'en parlerai volontiers, bien
Très
sûr.
bien. Vous viendrez auparavant nous parler de Padre Pio cet été. Ce sera
Oui.
passionnant parce que voilà, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, alors, nous allons découvrir une jeune femme canonisée en 2001. Elle s'appelle Rafka. Enfin, c'est son nom de religieuse et c'est ainsi que nous la connaissons. Patrizia, est-ce que vous pouvez nous situer l'époque de sa vie et le lieu où elle est née, s'il vous plaît?
Oui, alors, Sainte Rafka est née en 1832 dans un petit village de montagne au Liban et
Oui.
elle est morte en 1914 au monastère maronite Saint-Joseph de Jarabta, son dénom libanais, je ne sais pas si je le prononce correctement. Elle a traversé une période très difficile de l'histoire du Liban, marquée par des tensions religieuses et par la pauvreté et les persécutions, surtout contre les chrétiens d'Orient. Donc, sa vie a été marquée par des souffrances continuelles.
Alors, dès votre introduction, pardon, dont je vais lire quelques lignes, vous expliquez toute l'incompréhension bien légitime de nombreuses personnes qui fuient la souffrance, et même tout le monde, je dirais. Donc, je vous lis. J'ai écrit la vie de Sainte Rafka par dévotion, parce que j'évite généralement de me pencher sur la souffrance. La douleur, en effet, surtout lorsqu'elle est extrême, et c'est le cas chez elle, suscite des interrogations qui nous laissent perplexes, épuisants. Vous qui travaillez sur tous ces sujets, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le ciel demande tant de douleurs? Car nous avons l'impression qu'il y a au contraire peut-être un apaisement dans la souffrance, enfin, juste avant la mort. Voilà, pourquoi, déjà, pourquoi finalement avez-vous décidé de parler de cette souffrance?
Alors, j'explique la raison. Alors, il est très difficile de vivre sa propre souffrance, on le sait bien, mais parfois il est encore plus difficile de voir souffrir les autres et de parler de la souffrance extrême, comme dans le cas de Sainte Rafka. Et je me sens mal à l'aise, on n'est jamais à la hauteur, parce que normalement c'est le silence, la réponse la meilleure à la souffrance. Mais, et c'est pour cela que je choisis généralement d'écrire la biographie de saints exorcistes ou thaumaturges comme Saint Charbel par exemple. Mais pour Sainte Rafka, j'ai fait une exception, je vous l'explique, pour tenir une promesse. Ça vous semblera bizarre, mais alors que j'étais au Liban, le conducteur qui m'accompagnait a pris une route à contresens. Donc j'ai eu tellement peur que j'ai promis à Dieu que si je m'en sortais, j'aurais écrit aussi la biographie de Sainte Rafka et de tous les saints libanais que je connaissais à l'époque, parce que j'avais parlé que de Saint Charbel pour la faire connaître en Italie, et alors j'ai tenu ma promesse. Et malgré, je ne l'aurais jamais choisi parce que sa souffrance est vraiment extrême, sa vie m'a beaucoup donné et m'a beaucoup fait réfléchir.
Alors oui, est-ce qu'on peut dire que vous qui avez étudié beaucoup de vie de saints, que ceux qui souffrent énormément au moment de la mort souffrent beaucoup moins et c'est comme un signe de la délivrance et du retour au Père?
Alors, je crois qu'il faudrait approfondir davantage ce sujet parce
Oui.
que certains saints ont porté de très grandes souffrances jusqu'à leur dernier souffle.
Ah oui.
Il me semble aussi Martin Robin, si c'est le cas, le père Candido Amantini, qui était le maître du père Gabriel Amor et dont la canonisation est en cours. Il est mort dans des atroces souffrances, donc il n'a pas été apaisé.
Ah oui.
Saint-Cherbel a vécu une longue agonie avant de rejoindre le ciel. À l'inverse, par exemple, comme vous le dites, chez Saint Padre Pio, les stigmates ont disparu quelques jours avant la mort,
Oui.
comme si Dieu lui avait accordé un soulagement final, ainsi aussi d'autres. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment approfondir ce sujet parce que je ne suis pas en mesure à ce jour d'en savoir plus.
Alors pourquoi parle-t-on de discernement de la vocation au sujet de Saint Trafka?
Alors, on parle de discernement de la vocation parce que sa vie religieuse n'a pas été un chemin simple et immédiat. Elle a connu plusieurs étapes, des hésitations, des changements de congrégation et de nombreuses épreuves avant de comprendre clairement où Dieu l'appelait. Donc, un discernement s'est imposé souvent dans sa vie.
Oui. Cela vous semble-t-il une erreur que de faire un lien avec Sainte Bakita? Nous retrouvons des éléments communs aux deux saintes. En fait, nous avions fait avec un ami une émission sur Sainte Bakita et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des liens intéressants.
Oui, je crois tout à fait. Entre Sainte Joséphine Bakhita et Sainte Rakhka, les deux ont connu de grandes souffrances physiques, aussi morales, qu'elles ont transformées en chemin d'amour et de confiance en Dieu. Je crois que, disons, le premier point commun est celui-là. Et elles ont gardé la paix intérieure, hein, malgré les souffrances, car l'union avec Dieu, ne supprime pas la souffrance, hein, mais peut la transfigurer, comme ça a été le cas dans la vie des deux saintes.
Oui, elles ont toutes les deux dicté leur vie sur l'ordre de la mère supérieure.
Oui, alors à Saint Rafka, oui, je connais moins bien Saint Joséphine
Alors oui,
Bakhita.
alors ce fut le cas
Oui.
aussi parce que comme pour Sainte Trafka, la mère supérieure avait conscience qu'elle vivait à côté de quelqu'un
D'accord.
d'exceptionnel. Et puis toutes les deux se sont un peu, n'ont pas été dans un monastère définitif dès le début. Voilà, ça m'avait marqué. Alors, cette jeune Rafka va commencer par enseigner. Alors, elle s'appelle pas encore Rafka, mais Boutrossier.
Si.
Et elle
Pierrette,
va, comme voilà, elle va commencer par ce qui veut dire Pierre, c'est ça?
oui,
Pierrette.
on pourrait l'appeler Pierrette,
Voilà.
oui.
Alors, cette jeune femme va commencer par enseigner ce qu'elle aimait beaucoup faire. Postulante, elle a appris l'arabe, l'orthographe, les mathématiques. Alors, vous dites qu'elle a appris l'arabe, mais elle parlait quelle langue au Liban?
Alors, elle parlait l'arabe, qui est la langue officielle du Liban, mais dans le monde arabe, tout le
Oui.
monde arabe, il existe une différence entre l'arabe parlé au quotidien et l'arabe littéraire et écrit qu'il faut apprendre à utiliser pour lire, pour écrire, pour prier, pour enseigner. Et donc ici, dans le cas de Rafka, il s'agit surtout de l'apprentissage de l'arabe littéraire ainsi que d'autres disciplines, car beaucoup de jeunes filles à l'époque n'avaient pas accès à une véritable instruction.
D'accord, très bien. Alors, parlez-nous de son parcours religieux.
Alors, Saint Rafka, dès le début, sentait un appel à la vie contemplative, mais sa famille voulait la marier. À l'époque, au Liban, les filles se mariaient à 14 ans. Elle résista pendant plusieurs années aux pressions de sa famille et entra chez les sœurs Mariamettes à 27 ans, ce qui était déjà tardif pour son époque.
Alors,
Mais c'est
on précise juste que son papa s'était remarié. Parce que
oui,
quand elle a
exactement.
perdu sa maman enfant, son papa s'est remarié et donc elle voulait absolument entrer au couvent,
Exact.
mais en fait son papa non n'avait pas décidé cela. Elle s'entendait pas du tout avec sa belle-mère non plus.
Non plus, il y avait des disputes tout le
Oui.
temps dans la famille. OK.
Alors ça veut donc dire qu'elle avait vraiment la vocation, qu'elle ne voulait pas échapper à ça.
Et oui,
D'accord.
mais elle ne savait pas comment la concrétiser. Et son oncle avait fondé cette congrégation des sœurs Mariamettes
Oui.
et elle a entré, qui était suivie par les jésuites, elle est entrée dans cette congrégation, mais cette congrégation était de vie active quand même, elle a échappé le mariage.
Oui.
Mais la congrégation était de vie active et tournée vers l'enseignement, tandis qu'elle aurait souhaité une congrégation à la, de vie contemplative. Et un jour, à la congrégation, du coup, a été dissoute. Et donc, Ravka a décidé de la quitter parce que on voulait la fusionner avec une autre congrégation. Ravka l'a quittée, comme plusieurs des religieuses, parce que ça ne correspondait pas à son appel, et a supplié Dieu de lui montrer sa voie, son chemin. Et Dieu est intervenu à travers un rêve où il lui a montré clairement son chemin, et il lui a montré trois saints, et sans hésiter, elle est entrée au monastère maronite de Saint-Simon d'Aïto. Saint-Simon, c'était l'un des saints qui lui avait apparu, de vie contemplative, et qui a été finalement sa vocation définitive. Et donc Dieu a conduit sa vocation à son accomplissement très tard, mais lui a demandé de la patience, de la fidélité et du discernement à chaque étape de sa vie.
Nous allons faire une petite pause de quelques secondes et nous nous retrouvons juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors donc, à 39 ans, elle entre au noviciat et donc c'est là que Boutrossier devient Ravka, du prénom de
Et voilà.
sa maman.
Oui, exactement. Et oui, et donc sa vocation est arrivée très tardive, très tardive, et pendant des années, elle a vécu ces pressions familiales. Et cette longue recherche a été pour elle une véritable école de patience et de vertu, parce qu'elle n'a pas lâché prise, elle ne
Oui.
s'est pas retournée vers une autre chemin.
Alors, il y a un beau chapitre sur la vocation dans votre livre. Vous vous appuyez sur Saint Ignace de Loyola.
Oui, avant tout parce que Ravka connaissait sans doute la doctrine de Saint Ignace, parce que les jésuites conduisaient, disons, étaient les pères spirituels de sa congrégation des Mariamettes, la première. Et après, parce que je suis très fascinée par Saint Ignace de Loyola, c'était un ancien militaire habitué à suivre des règles strictes, et Dieu l'a conduit à développer une série de règles sur le discernement spirituel qui est devenue une référence dans l'Église. Et donc, Sainte Ravka s'est laissée guider par les jésuites. Et Saint Ignace de Loyola explique qu'on ne peut être pleinement heureux qu'en suivant la vocation pour laquelle Dieu nous a créés. Et si l'on suit une autre voie, on ne pourra jamais accomplir tout le bien que Dieu avait prévu pour nous. Il ne faut donc pas étouffer cette voie intérieure ni choisir une solution de compromis, ce que Ravka a fait. En effet, elle n'a pas choisi de compromis. D'où l'importance de faire un bon discernement. Et Saint Ravka a fait tout au long de sa vie plusieurs discernements parce qu'elle s'est trouvée à faire face à des situations spécifiques, c'est-à-dire quand elle sentait l'appel à la vie religieuse, la congrégation où elle est entrée, elle n'existait pas encore, par exemple. Donc, elle a choisi de suivre l'appel de Dieu qu'elle sentait dans son cœur.
Alors, nous allons nous attarder sur quelque chose d'assez inimaginable, le tournant de la vie de Sainte Ravka. Alors, je l'appelle toujours Rakfa, mais non, c'est Ravka, arrive après une demande très particulière à Dieu.
Oui, alors je crois que Saint Ravka a reçu véritable vocation dans la vocation. Car dans la vie contemplative, qui était son appel, Dieu l'a appelé à offrir ses souffrances pour le salut des âmes,
Alors,
comme.
pardon, Patricia, est-ce qu'il l'a appelée ou c'est elle qui a demandé?
Non, c'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire que Dieu nous fait choisir ce qu'il veut pour nous, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui l'a poussé vraisemblablement
Oui.
à demander la souffrance, comme l'a fait par exemple Saint Padre Pio pour sauver des âmes, sont toujours des vocations. Alors Dieu l'a appelée à offrir ses souffrances, elle a senti cet appel, et donc elle a demandé à 39 ans en voyant rien d'autre à religieuse malade, Ravka a demandé à Dieu de participer elle aussi aux souffrances du Christ pour sauver des âmes. Et le Seigneur, qui bien sûr l'appelait déjà à ça, sinon il aurait refusé, il est libre, il n'est pas obligé à répondre à nos demandes, lui a accordé cette grâce, entre guillemets, et les douleurs ont commencé le jour même. Et donc, son état, elle a commencé par des maux de tête, après des problèmes aux yeux, et son état s'est aggravé de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devienne paralysée, complètement aveugle, avec le corps déformé par la maladie, complètement. Et les médecins n'arrivaient pas à la soulager, ne comprenaient pas comment elle pouvait endurer ces douleurs si paisiblement. Et un chirurgien aggrava même parfois sa situation, parce qu'à la fois, à la place de guérir un œil, il lui a arraché. Et elle ne s'est jamais plainte et a répété simplement, sans se plaindre, « Je me remercie Dieu de m'avoir donné le meilleur pour moi et pour le salut de mon âme. » Et elle ne se plaignait jamais parce qu'elle même avait demandé la grâce de la souffrance, mais pour le salut du monde.
Oui, elle avait dit « Pourquoi ne me visites-tu pas avec la maladie ?» Donc, on ne peut pas faire
Exact.
Plus clair. Alors, malgré son infirmité, Ravka ne se sentait pas dispensée de la règle du couvent ni du jeûne.
Oui, tout à fait. Ravka, malgré son infirmité, ses atroces souffrances, ne se sentait dispensée ni de la règle du monastère, ni du jeûne. Elle était pour toutes un exemple d'obéissance et de vertu. Et les autres religieuses la considéraient déjà comme une sainte. Et malgré tout ce qu'elle a enduré, elle restait toujours joyeuse et ne se plaignait jamais.
Alors, je ne veux pas entrer dans des considérations morbides, mais sa souffrance était extrême de 1911 jusqu'à sa mort en 1914. Ravka ne pouvait plus se tenir debout. Je vous lis, les os de son corps se luxèrent tous. La clavicule droite sortait de 3 cm jusqu'à lui toucher le cou. Elle ne pouvait plus bouger seule, mais par contre, ses mains et sa voix n'étaient pas altérées.
Oui. Alors, Sainte Ravka vivait ses souffrances extrêmes comme Jésus sur la croix. Son corps était totalement déformé et elle ne pouvait presque plus bouger. Et en plus, elle était aveugle, il ne faut pas oublier ça. Seule ses mains et sa voix étaient préservées. Mais elle fuyait la paresse et tricotait et chantait les louanges de Dieu parce qu'elle pouvait bouger que les mains et utiliser la voix. Et donc, un jour, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Le jour de la fête Dieu, elle désirait tellement assister à la messe, elle ne pouvait pas, elle était complètement alitée, que malgré son état, elle a réussi à se traîner seule jusqu'à la chapelle.
C'est incroyable.
Et les religieuses furent bouleversées parce qu'une chose pareille était impossible dans son état. Elles pensèrent à une guérison miraculeuse, mais non, c'était pas ça. Dieu lui avait accordé ce prodige pour son immense amour de l'Eucharistie.
Elle était par, comment dirais-je, elle s'était traînée jusque là-bas ou alors c'était de l'ubiquité, enfin
Non, elle s'était physiquement traînée jusqu'à là, mais c'était impossible dans son état.
Mais oui. Est-ce qu'on a déterminé ce dont elle souffrait ou alors c'était une maladie, j'oserais dire divine, en fait inconnue?
Alors, aujourd'hui, les médecins qui ont fait des expertises sur son corps, sur ses os, pensent que Saint Ravka souffrait probablement d'une tuberculose osseuse très avancée, associée de graves atteintes articulaires et neurologiques. Mais à l'époque, les médecins ne comprenaient pas qui se passait, ce qu'elle avait, et même les traitements aggravaient son état. Elle souffrait, elle avait des souffrances atroces et extrêmes. Alors, si vous me permettez, le père Elias, qui est le procureur de l'ordre libanais maronite encore aujourd'hui, a affirmé et qui a écrit la préface à mon livre, a affirmé à son sujet, quand nous sommes loin de Dieu, toutes les souffrances deviennent plus amères et plus lourdes à porter. Avec Dieu, elles restent douloureuses, mais elles se vivent avec plus de paix et de force. C'est à chacun de choisir comment vivre sa souffrance. En restant unis à Dieu, comme Saint Ravka, le poids de l'épreuve s'allège, car là où est le Seigneur, il y a la paix, la joie et la force d'avancer. À l'inverse, lorsqu'on s'éloigne de Dieu dans l'épreuve, la misère et la souffrance grandissent.
Alors, à présent, c'est elle qui guérit les corps. Elle a commencé avec sa mère supérieure. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, juste après la mort de Ravka, sa supérieure, qui la considérait déjà comme une sainte, comme vous l'avez dit,
Oui.
tomba gravement malade. Et une nuit, la sainte lui apparut en rêve et lui demanda de prendre de la terre de sa tombe, de la mélanger avec de l'eau et de l'avaler. Elle obéit et fut guérie. Et c'est le premier miracle de Saint Ravka, qui est à l'origine de la tradition d'utiliser la terre de sa tombe pour demander des guérisons par son intercession.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la terre de sa tombe? Parce qu'elle n'a pas été enterrée en pleine terre.
Oui, à l'époque, oui. Après, avec la canonisation, maintenant, elle repose dans ce cercueil à l'intérieur de l'église. Mais ce qui m'a expliqué, moi je ne le connaissais pas, ce qui m'a expliqué toujours le procureur de l'ordre libanais maronite, le père
Eli,
Elie El
yes.
Jamouri, et chaque 23 mars, anniversaire de la mort de Sainte Ravka, on apporte de la terre sur sa première tombe, qui est à
Ah.
l'extérieur, hein, qui était une tombe avec la terre. Puis cette terre est bénie avec une relique de la sainte lors d'une liturgie spéciale célébrée dans la chapelle où se trouve actuellement sa tombe. Donc la terre que les moniales distribuent aujourd'hui a touché la première tombe de Saint Ravka et a été bénie.
Donc, les gens peuvent se procurer de la terre.
Oui, bien sûr, je crois que le meilleur, parce que aussi à Rome, l'ordre libanais maronite, de temps en temps distribue aussi de la terre, mais c'est très difficile de se la procurer.
Bien
Il
sûr.
faudrait contacter directement le monastère où repose Sainte Ravka, qui se trouve au Liban. Il s'appelle monastère Saint-Joseph et vous le trouvez l'adresse sur le site officiel ravka.com qui s'écrit
C'est facile.
RAFQA.com. Là, vous trouvez l'adresse et vous pouvez envoyer une demande de se procurer, de vous envoyer la terre.
Alors, au fur et à mesure que je lisais les témoignages de guérison, parce qu'il y en a eu énormément, je me suis
Si.
dit, mais il n'y a que des Libanais qui sont guéris.
Alors, c'est
Donc, en
vrai
fait, on n'a pas
que.
nos chances, nous.
Si, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il est très difficile. Il y a certainement des guérisons aussi en dehors du Liban, mais Saint Ravka reste encore un peu inconnue à l'international.
Oui.
Et les témoignages que j'ai trouvés, je les ai trouvés sur le registre du monastère. Et la langue arabe reste souvent un obstacle pour approfondir davantage. Il est donc normal que les témoignages les plus nombreux viennent surtout du Liban, où sa dévotion est très forte. Mais plus nous la prierons, je crois que plus il y aura certainement aussi des témoignages chez nous et en Europe et à l'international.
Je me suis demandé à un moment si elle ne représentait pas la terre libanaise qui souffre. Et c'était pour ça que les Libanais sont guéris.
Bien sûr, aussi, mais il y a aussi quelque chose un peu plus subtil, c'est-à-dire plus spirituel. Il y a les quatre saints
Oui.
libanais, déjà canonisés, béatifiés. Alors, Saint Charbel est célèbre pour l'huile, on reçoit des guérisons à travers l'huile. Le bienheureux Stéphane Némée, on reçoit des guérisons à travers l'eau de sa source, qui la fait jaillir miraculeusement. Et Saint Ravka, à travers la terre. Il semblerait que les trois éléments ont été choisis de Dieu pour représenter chacun des trois saints libanais. Et bien sûr, disons, leur intercession est efficace aussi sans ces éléments,
Bien
mais
sûr.
chacun d'eux est relié à un certain élément et Saint Ravka à la terre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'il nous reste 2 petites minutes, nous raconter juste un témoignage assez intéressant, poignant?
Alors, par exemple, le miracle reconnu pour la canonisation de Saint Ravka, qui
Oui.
concerne Céline Rebeis, une enfant libanaise atteinte d'un cancer très grave avec métastase, les médecins n'avaient plus d'espoir. Sa mère lui donna alors un peu de terre de la tombe de Saint Ravka, mélangée à la nourriture. Et peu après, l'enfant commença à manger, à marcher, à jouer. Les examens confirmèrent ensuite la guérison complète et ce miracle l'a amenée à la canonisation. Et après, le registre du monastère rapporte de très nombreux témoignages de cancers guéris, des cataractes disparues, des hépatites vaincues, des paralysies, des hémorragies stoppées, des maladies des reins évitées, des cas de psoriasis ou encore des guérisons après des accidents très graves. Et il y a aussi des témoignages impressionnants, comme celui du maire à qui les médecins annonçaient un bébé gravement mal formé et dont l'enfant serait né parfaitement sain après avoir avalé un peu de la terre de Saint-Ravka. Mais au-delà des guérisons physiques, beaucoup disent que le plus grand miracle de Saint-Ravka est la paix intérieure et le retour à Dieu qu'elle apporte à ceux qui découvrent sa vie.
Alors, nous laisserons les auditeurs découvrir les messages écrits par les différents ecclésiastiques à son propos, ainsi que les prières et litanies que vous avez eu la bonne idée de rajouter à la fin de l'ouvrage. Merci beaucoup et merci pour cette belle émission, Patrizia. Je rappelle votre livre, Patrizia Cattaneo, La Terre qui guérit. C'est donc la biographie de Saint-Ravka aux éditions du Parvis. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Nous nous reverrons bientôt. Et puis, nous restons bien en communion de prière parce que je sais que vous êtes une femme de prière et que vous œuvrez beaucoup pour cela. Donc, merci pour cela aussi.
Merci à vous et c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Eh bien, renouvelons l'expérience. À bientôt. Au revoir, Patrizia.
À bientôt. Au revoir.